Est-ce que vous acceptez qu'on prenne des photos?
Oui, ça.
Bonsoir à tous, vous m'entendez? Apparemment ça marche. Alors bienvenue et merci d'être venus si nombreux pour écouter Bazarine d'un jour. On est vraiment très 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 heureux d'accueillir ce soir. Alors je vais juste vous dire quelques mots de Philomania, parce que je pense qu'il y a dans la salle des gens qui ne vous connaissent pas. Donc Philomania est une association qui est née il y a 10 ans et qui organise un café philo mensuel, qui est animé en alternance par Laurence Lacroix, qui est à côté de moi, et Nicolas Deret, qui arrive. Le principe des cafés philo, c'est de faire une réflexion collective dans l'écoute et le respect. L'écoute, le respect, la bienveillance, c'est vraiment les valeurs que porte Philomania. Donc à chaque café philo, c'est le public qui propose des sujets, on fait un vote à main levée, et très démocratiquement, on traite ensemble le sujet qui a recueilli le plus de voix. Et à la fin de la séance, le ou la philosophe font une conclusion avant qu'on ait un petit temps de convivialité, comme on en a un également tout à l'heure, après la conférence et après le débat. Et maintenant, je vais passer la parole à Laurence pour qu'elle vous présente, s'il en est besoin, Bazarine Pinchot.
Merci beaucoup, Marie-France. Alors, merci beaucoup Marie-France et puis merci beaucoup Bazarine Mitterrand-Pinjot, voilà, d'être parmi nous ce soir. Nous avons eu le plaisir cette année, moi, mes collègues et nos élèves, de travailler votre ouvrage, donc Vivre sans, une philosophie du manque, qui participait au prix philo des lycéens. Et c'est la raison pour laquelle nous avons un réel plaisir, mais aussi un réel intérêt d'être là ce soir pour vous écouter nous parler donc de votre ouvrage. Alors c'est vrai que vous êtes connus, mais j'aimerais quand même vous présenter à ceux qui peut-être vous connaîtraient pas, et puis à ceux aussi qui pensent vous connaître, mais qui ignorent peut-être que vous avez différentes facettes et différents talents. À votre arc. Donc, Bazarine Mitterrand-Pinjot, vous êtes née en 1974 à Avignon, d'une union célèbre entre François Mitterrand et Anne Pinjot. En 1994, vous intégrez l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud et obtenez en 1997 l'agrégation de philosophie. En 2016, vous soutenez votre thèse de doctorat sur René Descartes à l'Université Paris 8. Depuis 2021, vous enseignez à Sciences Po Bordeaux. La philosophie apparaît ainsi clairement comme la discipline qui accompagne et nourrit votre vie. Le livre que vous nous présentez ce soir l'atteste, ainsi que d'autres de vos essais, j'en citerai quelques-uns. Donc vous avez écrit « La dictature de la transparence »,« Entretien avec Descartes » et « Les enfants et les fous » sous la direction de Chantal Jacquet. Mais vous êtes aussi très attiré par la littérature et vous possédez un réel talent d'écrivaine. Votre carrière littéraire l'atteste de manière indéniable. Vous êtes en effet l'autrice d'une quinzaine de romans, à peu près. Votre premier livre, qui est paru en 1998 et que vous avez intitulé « Premier roman », débute donc la série. Beaucoup d'autres ont suivi, je ne les citerai pas tous, juste quelques-uns, voilà. Les invasions quotidiennes, Magda, Se taire, Le salon des massages. Vous écrivez aussi pour les enfants. Donc voilà, certains de vos ouvrages s'adressent à eux. J'ai presque envie de dire comment faire de la philosophie avec les enfants. Oui. Vous êtes aussi intéressé, vous vous êtes aussi intéressé à votre propre histoire, et puis vous l'avez analysée dans un certain nombre d'ouvrages depuis un certain nombre d'années, mais vous venez de sortir un ouvrage, 11 quais Branly, qui traite aussi, là encore, de ce que vous avez vécu, et qui a été publié en octobre 2024, juste après Vivre sans, qu'on va ici travailler, vous avez publié en janvier 2024. On a affaire à quelqu'un qui travaille beaucoup. Mais on pourrait croire que vos talents s'arrêtent ici, c'est pas du tout le cas. Vous vous illustrez également en tant que journaliste. Vous avez en effet été chroniqueuse littéraire dans l'émission « Fil dans ta chambre » en 2023, puis dans « Sa balance à Paris » sur Paris Première. On peut aussi vous retrouver en presse écrite, notamment dans le magazine « Elle » où vous écrivez quelques chroniques, ou encore dans les journaux du groupe Centre France pour lesquels vous rédigez les chroniques pour « Chronique du temps présent ». Et bien sûr, on peut vous écouter sur France Culture. Alors, on pourrait croire que c'est fini, mais c'est pas le cas. Donc, j'aimerais juste rajouter trois points pour finir votre présentation. Premier point, vous êtes administratrice de l'Institut François Mitterrand. Second point, vous êtes membre du comité scientifique pour le festival Philosophia à Saint-Émilion. Région Alpes, s'il en est. Et vous avez aussi créé, troisième point, une collection de sciences humaines avec votre amie Sophie Norman, intitulée « Les nouvelles mythologies ». Donc, à la fin de cette présentation, le moins que l'on puisse dire Mazarine Mitterrand-Pinjot, c'est que votre vie est bien remplie. Alors, peut-on vivre sans manque, ou plus exactement, doit-on vivre sans manque ?
Alors, merci beaucoup pour cette introduction qui m'honore et en même temps qui met une certaine pression, il faut bien le dire, puisque maintenant va suivre quand même une conférence de philosophie à 19h un mardi soir. C'est exigeant de votre part. Surtout. Donc voilà, je vais essayer de ne pas vous endormir. Mais bon, je sais que vous êtes des habitués des cafés philo et des conférences et de philomania. Donc vous avez une appétence pour la philosophie qui devrait vous prédisposer à une écoute bienveillante. Donc je vais en effet revenir sur le propos de cet ouvrage, hein, Vivre sans, une philosophie du manque. En tout premier lieu, j'aimerais expliquer ma démarche avant d'entrer dans le vif du sujet. En effet, hein, on demande souvent à un écrivain ou à un essayiste qu'est-ce qui l'a poussé à écrire, quel était le début, quelle était la première idée, comment l'idée lui est venue. Et d'emblée, je peux déjà répondre hein, que la philosophie est partout. Bon, ça c'est un peu une réponse vague et générale, mais c'est vrai que d'une certaine manière, on pourrait faire une philosophie de la table, une philosophie du lycée, une philosophie d'à peu près tous les objets. Tout dépend comment on les interroge, hein. La philosophie c'est d'abord une méthode. Mais ici, de façon plus spécifique, eh bien, cette philosophie m'attendait au supermarché. En effet, j'ai été interpellée, sans doute comme beaucoup d'entre vous, par la multiplication de ces étiquettes qui vantaient un produit en mettant en avant l'absence d'un ingrédient jugé nocif, soit pour la santé, soit au regard de la crise écologique, soit encore pour l'esthétique à laquelle notre corps est soumis. Et donc, j'ai nommé le sans sucre, sans huile de palme, sans sulfite, sans alcool, sans parabènes, etc., etc. Et donc, je me suis interrogée sur ce que signifiait hein, cette petite préposition et pourquoi elle était devenue une valeur d'appel qui, dans les faits, évidemment, se traduisait également par un prix plus onéreux que si le produit avait été fabriqué avec. Donc, comment se fait-il que, en enlevant quelque chose à un produit, ça coûte plus cher. Et comment se fait-il que cette absence soit précisément ce qui soit valorisé et donc transformé en quelque sorte en valeur monétaire. Donc, cette espèce de transformation, de transsubstantiation même, m'a beaucoup intéressée. Et c'est vrai que souvent, hein, le marketing a une longueur d'avance. C'est toujours intéressant d'écouter les signifiants du marketing, puisqu'il est toujours en prise avec notre temps. Et lorsqu'il vend un produit, évidemment, ce n'est pas juste le produit qu'il vend, c'est un art de vivre. Quand on vous vend un yaourt, on ne dit pas juste voilà, vous allez manger du lait fermenté. Il y a autour le retour à la nature ou la peau douce de la laitière ou que sais-je. Enfin, en tout cas, il y a tout un imaginaire qui est vendu avec. Et donc là, évidemment, la question du sang qui se multiplie à foison posait la question de savoir mais quel était cet imaginaire, hein, comment on arrivait à faire du manque quelque chose de plein, comment on a transformé le sang en plus. Voilà, ça c'était le départ de la question. Et en effet, au-delà de la première lecture littérale, qui consiste évidemment, je le souligne quand même, à saluer un changement dans le mode de production de certains produits, évidemment c'est mieux de produire sans huile de palme et de ne pas déforester l'Amazonie plutôt que de le faire. Donc ça c'est une évidence et il faut quand même le rappeler. On peut néanmoins s'étonner de ce tour de passe-passe qui consiste donc à transformer l'absence en valeur ajoutée. Donc que sous-tend cette valeur ajoutée ? Est-ce que c'est une simple illusion marketing ? Ou est-ce qu'elle nous enseigne quelque chose de plus profond sur notre société ? Or, il m'a semblé... Pardon, il y a des petits sauts comme ça, mais c'est pas grave, ça introduit un peu de sang dans le discours. Et donc un peu d'énigme, peut-être. Il m'a semblé que, évidemment... Et cette multiplication du sang avait quelque chose à nous dire. Et cela rencontrait mes recherches, par ailleurs, c'est juste pour expliquer la genèse du livre, dans le cadre de mon travail universitaire. Alors là, je vais employer des gros mots, bouchez-vous les oreilles, c'est pas grave, je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, sur l'ontologie du manque ou sur une métaphysique qui consiste à réinscrire dans l'horizon de la totalité un vide, un creux, un trou. Voilà. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est des structures. Est-ce qu'on peut échapper à la totalité ? Bon. Encore une fois, ce n'est pas là-dessus que je vais investir le propos ce soir, mais c'est un champ, voilà, une ontologie versus métaphysique qui m'intéresse. Je ne vais pas y aller ce soir parce qu'il supposerait de convoquer des auteurs à la fois très difficiles et très prolixes, comme Deleuze, par exemple, avec lequel je bataille beaucoup, quand j'arrive à comprendre. Néanmoins, le fond métaphysique de l'affaire va plus ou moins affleurer nécessairement dans les propos que je vais vous tenir ce soir. Je pense en effet que toute compréhension du monde est toujours soutenue par une vision métaphysique, qu'elle soit latente ou patente. Et j'ai donc eu à cœur, dans ce livre, hein, de la mettre au jour, cette structure métaphysique, en tâchant donc de relier le signifiant « sans » et le signifié profond de cette absence, même si, précisément, il est difficile à débusquer, parce que, eh bien, tout simplement, l'histoire de la philosophie joue avec. Alors... D'abord, deux premières conclusions s'imposent, sur lesquelles je reviendrai plus tard, mais je vais quand même en dire un mot. Le sang, du sang d'huile de palme, sans parabène, je le répète à chaque fois, hein, parce que évidemment à l'oral, c'est très polysémique, hein, le sang, hein, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, donc on imagine bien que c'est toujours le S-A-N-S, et si tout à coup je parlais d'hémoglobine, eh bien je vous le préciserai, mais là il s'agit bien du sang S-A-N-S, recèle différentes significations sociales. Mais... parmi ces significations sociales, c'est surtout deux d'entre elles qui m'intéressent et donc que je développerai à l'issue d'un approfondissement philosophique. Donc je vais quand même les annoncer. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce sang ? On peut supposer, je le disais, que si ce marketing fonctionne, c'est qu'il touche aux grandes valeurs sous-jacentes à notre société. On l'a dit, hein, le marketing, quand il cherche à vendre, il vend une vie qui va avec. Il vend des valeurs. Et ici, si on écoute bien le son, ce qu'il cherche à vendre, eh bien je dirais, en premier lieu, que ce sont deux choses. D'abord, la santé. On peut imaginer que de la Nutella sans huile de palme, c'est meilleur pour la santé. Et ensuite, l'écologie. Encore une fois, si on reprend cet exemple de la Nutella sans huile de palme, hein, c'est meilleur pour l'écologie. Alors, nous aurons à voir pourquoi ces deux valeurs, hein, que je mets entre guillemets, et j'insiste vraiment sur les guillemets parce que, justement, je vais essayer de remettre en cause, hein, ce glissement du bien vers la valeur, sont récupérés par un capitalisme qui, précisément, ne supporte pas le manque, ne supporte pas le vide, ne supporte pas la faille. Et donc, en promouvant le sang, eh bien, tout simplement, il incite à acheter. Okay. Or, le sang ferait plutôt signe vers la décroissance. Il y a un petit paradoxe, hein, dans l'idée qu'on vous incite à acheter en promouvant les valeurs de la décroissance. C'est toute l'intelligence du marketing. Et donc, outre cette intelligence marketing, sur laquelle, encore une fois, je reviendrai, et qui nous conduit donc à nous interroger pourquoi un signifiant marche, à quoi il répond, hein, à quoi il renvoie, eh bien, il y a derrière ce son une invitation à philosopher. Et c'est ce que nous allons essayer de faire ici. Alors, je l'ai dit, l'histoire de la philosophie joue avec le manque. Pourquoi ? Parce que très tôt, la question du manque va se poser en lien avec celle du désir. C'est la pensée antique, hein, qui met en place une équation première. Le désir, et surtout l'excès de désir, met en danger l'équilibre, met en danger l'harmonie, et donc met en danger le bonheur. Équilibre, harmonie, bonheur sont des équivalents. Majoritairement, en tout cas, les sagesses antiques prescrivent de renoncer au désir vain pour atteindre ce qu'Épicure appelle l'ataraxie. Autrement dit, l'idéal de sagesse et de bonheur, c'est la plénitude, ou, pour le dire autrement, l'absence de manque. Donc il faudrait atteindre l'absence de manque. Le manque est vu de façon négative. Et pour y accéder, à cette absence de manque ou à cette plénitude, il faut renoncer au désir vain. Pourtant, un personnage chez Platon va remettre en cause ce dogme, et ce personnage, qui pour le coup est très impertinent et très minoritaire, mais en même temps assez redoutable, ce personnage c'est Calliclès, qui dans le Gorgias, hein, dans le dialogue intitulé Le Gorgias, oppose à Socrate le fait que seul le désir jamais assouvi ressemble au mouvement de la vie. Alors on va l'écouter, Calliclès, puisqu'il se défend très bien tout seul, et je vais le citer. Il s'adresse à Socrate et il lui dit « Écoute, Socrate, tu prétends que tu poursuis la vérité, eh bien, voici la vérité. Si la facilité de la vie, le dérèglement, la liberté de faire ce qu'on veut, demeurent dans l'impunité, ils font la vertu et le bonheur. Tout le reste, ce ne sont que des manières, des conventions faites par les hommes à l'encontre de la nature. Rien que des paroles en l'air qui ne valent rien. » Hein, donc en fait, il dit, voilà, l'idée c'est le bonheur, c'est de faire ce qu'on veut. Tout le reste, ce ne sont que des conventions, la morale n'est que de l'ordre de la convention sociale. Mais si on écoute la nature, eh bien, il faut libérer ses désirs, au contraire, et il faut prendre ce qu'on peut prendre. Plus loin, Socrate résume le propos pour ouvrir sur un nouveau développement, un argument dont il espère cette fois-ci qu'il convaincra l'adversaire coriace qu'est Calliclès, et donc Socrate lui dit « Il est donc inexact de dire que les hommes qui n'ont besoin de rien sont heureux. » Et Calliclès lui répond, ah oui, Parce que si c'était le cas, les pierres et même les cadavres seraient tout à fait heureux. Donc voilà pour Calliclès, l'idéal de sagesse pour Socrate, bah c'est de ressembler à une pierre. Parce qu'une pierre, c'est sûr, elle n'a pas de désir. Socrate cherche alors une autre stratégie. Et il lui dit, bien, allons donc. Je vais te proposer une autre image qui vient de la même école. En effet, regarde bien si ce que tu veux dire quand tu parles de ces deux genres de vie, une vie d'ordre et une vie de dérèglement, ne ressemble pas à la situation suivante. Et alors, il va développer une image qui va donner à voir à quoi ressemblent ces deux vies. Suppose qu'il y ait deux hommes qui possèdent chacun un grand nombre de tonneaux. Les tonneaux de l'un sont sains, remplis de vin, de miel, de lait, et cet homme a encore bien d'autres tonneaux remplis de toutes sortes de choses. Chaque tonneau est donc plein de ces denrées liquides qui sont rares, difficiles à recueillir et qu'on n'obtient qu'au terme de maints travaux pénibles. Mais au moins, une fois que cet homme a rempli ses tonneaux, il n'y a plus à y reverser quoi que ce soit ni à s'occuper d'eux. Au contraire, quand il pense à ses tonneaux, il est tranquille. L'autre homme, quant à lui, serait aussi capable de se procurer ce genre de denrées, même si elles sont difficiles à recueillir, mais comme ces récipients sont percés et fêlés, il serait forcé de les remplir sans cesse, jour et nuit, en s'infligeant les plus pénibles peines. Voilà l'homme soumis au dérèglement, son tonneau est percé, et donc il n'a de cesse que de le remplir, tandis que l'autre homme est tranquille, heureux, ses tonneaux sont pleins. Et donc ici, le trou du tonneau s'ouvre au manque. Et c'est parce que le vin s'écoule qu'il faut s'en procurer à nouveau. Le désir n'est jamais rassasié, sa quête est perpétuelle, à peine est-il satisfait qu'il renaît de ses cendres. C'est une sorte de fuite en avant que rien n'arrête, puisque rien, structurellement, ne peut le satisfaire. Telle est la logique de Calliclès que Socrate fustige. Et donc, il lui dit, alors, il conclut sur cette métaphore des tonneaux percés, alors, regarde bien, si ces deux hommes représentent chacun une manière de vivre, de laquelle des deux dis-tu qu'elle est la plus heureuse ? Est-ce la vie de l'homme déréglé ou celle de l'homme tempérant ? En te racontant cela, est-ce que je te convainc d'admettre que la vie tempérante vaut mieux que la vie déréglée ? Est-ce que je ne te convainc pas ? Alors malheureusement, Socrate est tombé sur un os. Calliclès, c'est vraiment l'homme postmoderne dans toute sa désinhibition et toute sa décontraction. Il lui dit, tu ne me convaincs pas, Socrate. Car l'homme dont tu parles, celui qui a fait le plein en lui-même et en ses tonneaux, n'a plus aucun plaisir. Il a exactement le type d'existence dont je parlais tout à l'heure. Il vit comme une pierre. S'il a fait le plein, il n'éprouve ni joie, ni peine. Au contraire, la vie de plaisir est celle où on verse et on renverse autant qu'on peut dans son tonneau. Et donc, Calliclès pourrait être dit le père de la logique consumériste où le bonheur et le plaisir se confondent. Alors, pour le moment, nous sommes en Grèce et il faut comprendre que la perfection est souvent signifiée par le cercle, c'est-à-dire le mouvement sans mouvement, le mouvement le plus immobile. C'est que le monde des Grecs, toujours la philosophie des Grecs, elle est en lien avec la cosmologie. Le monde des Grecs est un monde clos, un monde harmonieux, pourvu d'un haut, d'un bas, d'un centre, et surtout de valeurs qui lui sont immanentes, surtout dans la région supralunaire, qui représente la perfection. C'est donc un monde fini, où précisément le fini est perçu comme la vertu à atteindre. Alors, ça sonne étrangement à nos oreilles de moderne, voire de post-moderne. Il faut entendre le fini chez les Grecs comme ce qui est accompli, achevé. tandis que l'infini, au contraire, est marqué du sceau de la négativité. C'est ce qui n'est pas fini, c'est ce qui est inachevé. Comme, par exemple, le désir qui renaît incessamment. Le désir est infini. Donc, il est marqué du sceau de la négativité. Alors, tout va changer à partir du XVIe et XVIIe siècle, et avec cette découverte vertigineuse, eh bien, tout simplement, de l'infinité de l'univers. Le référent change, et la place de l'homme aussi. Il occupait une place éminente dans l'univers aristotélicien, il était tout simplement au centre, hein. Il est désormais un grain de poussière perdu dans l'immensité de l'univers. C'est ce que traduit de manière magnifique le philosophe Blaise Pascal au XVIIe siècle. En effet, l'homme se trouve, écrit-il, comme égaré dans ce recoin de l'univers, sans savoir qui l'y a mis, ce qu'il est venu faire. Le philosophe est particulièrement sensible à cette bouleversante désorientation. Il faut l'imaginer, de penser qu'on a une place qui nous attend et qui existe naturellement, et de se retrouver dans un univers sans coordonnées, sans référent, sans assises, et donc sans place. Il va falloir retrouver un fondement, bon, ça c'est encore une autre histoire, pour retrouver une forme d'assise, ça sera notamment le cogito cartésien. Ou encore, j'en reviens à Pascal, qui écrit que l'homme, étant revenu à soi, considère ce qu'il est au prix de ce qui est, qu'il se regarde comme égaré dans ce canton détourné de la nature, et que de ce petit cachot où il se trouve logé, j'entends l'univers, il apprenne à estimer la terre, les royaumes, les villes, et soi-même à son juste prix. Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini ? Alors c'est un questionnement à la fois tragique et existentiel qui va se poser à la faveur de cette transformation épistémologique et cosmologique majeure. Il faut bien comprendre que la représentation de soi dans le monde change nécessairement avec les découvertes scientifiques. De la même manière sans doute qu'aujourd'hui, alors peut-être qu'on en a moins la mesure que les jeunes qui sont parmi nous, le fait de savoir que la Terre est potentiellement fini, en tout cas que ses ressources sont finies, sont limitées, transforme le rapport au monde. C'est-à-dire que ce type de connaissance nécessairement induit un nouveau rapport au monde. Et c'est un bouleversement absolument majeur qu'on a du mal à évaluer. Bien, dès lors, en tout cas, une fois qu'on découvre l'infini, je fais des grands jalons, je marche à pas de géant, là, j'ai pas le temps de faire toute l'histoire de la question de l'infini, qui est une histoire magnifique, enfin, du fini et de l'infini. Toujours est-il que dès lors que l'infini devient l'horizon indépassable pour les hommes, eh bien, le sens même du désir et du manque change de nature. Et nous retrouvons une intuition qui était déjà présente dans la mythologie et dans la philosophie grecque, notamment dans le mythe de Protagoras, dans le mythe de Prométhée qu'on trouve dans le dialogue du Protagoras de Platon. Qu'est-ce que nous raconte ce mythe ? Eh bien, ce qu'il nous dit, c'est que l'homme est un être fondamentalement, ontologiquement, structurellement inachevé. On retrouve cette question de l'inachèvement. C'est donc ce mythe de Prométhée dans lequel les dieux chargent les deux frères, Épiméthée et Prométhée, de distribuer à tous les êtres vivants dans la nature toutes les différentes qualités. Et donc Épiméthée, le frère, dont le nom signifie celui qui réfléchit après coup, distribue tout, les poils, les griffes, les plumes, la puissance, il distribue tout. Et il a juste oublié un détail, et ce détail, eh bien, c'est l'homme. Voilà donc l'homme dépourvu, nu, sans rien, vulnérable. Ce qui est après tout sa condition. Et c'est alors que Prométhée va voler le feu aux dieux, vous vous en souvenez. Alors ce mythe, et c'est ça le grand intérêt des mythes, peut être interprété de plusieurs manières différentes. Et puisqu'on l'a dit, hein, chez les Grecs, le fini, la mesure et la limite sont normatifs. Cette outrecuidance de Prométhée qui va voler le feu aux dieux, cette hubris, hein, ce que les Grecs appellent l'hubris, va se payer au prix d'un châtiment éternel. La démesure, la transgression, hein, il, quand même, il franchit la limite, il dépasse la limite, il transgresse. Donc Prométhée s'est rendu coupable, le voue à se faire dévorer le foie chaque matin par un aigle. Néanmoins, le manque premier de l'homme le pousse à sortir de la nature, et c'est la deuxième interprétation qu'on peut donner du mythe, qui n'est pas du tout exclusive de la première. Peut-être que c'est au prix d'une transgression que l'homme sort de la nature pour aménager autour de lui un monde viable, c'est-à-dire un monde de culture. C'est à partir de sa vulnérabilité, à travers un acte de transgression, et par son intelligence et sa technologie, sa technique, le feu, hein, qui permet de transformer les choses, qu'il va pouvoir effectivement sortir du seul règne du vivant pour entrer dans la culture. Et donc, on peut voir dans ce mythe une articulation entre le manque premier, qui serait constitutif de l'homme, et de fait, encore une fois, il l'est, et son entrée dans le champ symbolique qui exige de lui une forme de création. Pour entrer dans ce champ symbolique, dans ce champ du sens, il doit dépasser, se dépasser et éventuellement transgresser. Alors certes, on pourrait dire également aujourd'hui que c'est en transgressant les limites que l'homme a fini par mettre en danger la nature, hein, ou l'écosystème. Donc cette transgression, elle est ambivalente. Elle permet à la fois de sortir d'un état de manque, mais elle met également en danger l'harmonie préexistante. Cette ambivalence, elle est immanente au geste de Prométhée. Néanmoins, donc, il faut bien ici comprendre, hein, que transgresser les limites, c'est également transformer la nature en un lieu viable, tout simplement. Un lieu qui lui ressemble, un lieu transformé par son intelligence. L'arrachement à la nature le fait entrer dans le champ du sens. Alors, on pourrait reprendre cette idée pour éclairer l'une des particularités de l'espèce humaine, à savoir que le petit homme, le nourrisson, naît lui aussi totalement dépendant. On retrouve l'homme nu, fragile, vulnérable. C'est un petit être manquant, non autonome, et c'est parce qu'il est manquant qu'il va lui aussi pouvoir entrer dans le champ du langage, dans le champ de la mise en sens. La plupart des animaux, lorsqu'ils naissent, au bout de 2-3 jours, sont à peu près autonomes. Bon, pas le petit homme. Lorsque le nourrisson crie, lorsque le nourrisson appelle, eh bien, cet appel n'est jamais seulement celui du besoin. Le nourrisson qui pleure n'a pas seulement faim, n'a pas seulement soif. Sa demande est également d'un autre ordre. Elle convoque la mère, elle convoque une réponse, elle convoque une reconnaissance, elle convoque un affect. Et ce temps de latence, qui dure donc beaucoup plus longtemps que pour toutes les autres espèces animales, cet inachèvement va ouvrir la voie d'un dépassement de l'instinct biologique. Autrement dit, chaque nourrisson est un petit Prométhée, si on veut filer la métaphore. En tout cas, un petit homme perdu, vulnérable, que va sauver Prométhée. J'en reviens alors à cette structure de l'être manquant, qui est l'homme dans un monde qui a perdu ses repères et son sens. Retour au XVIIe siècle, fin du XVIe, début du XVIIe. L'univers infini Galilée et Descartes découvrent, bon, ils sont précédés par quelques autres découvertes, Kepler, Copernic, etc. Mais la découverte de l'infini, c'est bien Galilée, et c'est surtout Descartes qui va le nommer. Copernic a montré que la Terre tournait autour du Soleil, et non l'inverse, mais il n'a pas encore découvert l'infini. Et en fait, c'est quand même la découverte de l'infini qui va vraiment changer la donne. Et Descartes va nommer l'infini, alors il va lui donner un nom, il va l'appeler l'indéfini, pour ne pas concurrencer l'infini positif que seul Dieu mérite. L'appellation de l'infini, seul le divin peut s'autoriser, peut être qualifié d'infini, et pas l'univers matériel, pas l'univers physique. Alors la question du désir va nécessairement se transformer. On va pouvoir se demander si ce désir ne pourrait pas être tout simplement un désir d'infini. Un désir impossible à combler. Et donc peut-être, plutôt que d'un désir d'avoir, d'un désir de remplir incessamment le tonneau qui est troué, peut-être que ce désir est plus fondamentalement un désir d'être. Le désir de combler son manque d'être. Et c'est très exactement ce que Pascal décrit sous le terme de divertissement. C'est-à-dire ce déplacement du désir d'être vers le désir d'avoir, pour se détourner de ce manque fondamental qui nous structure. Alors je cite la pensée qui traite du divertissement, qu'on a beaucoup lu pendant le confinement, vous allez vous en souvenir. Divertissement. Quand je m'y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent, dans la cour, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, j'ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. C'est surtout cette phrase-là qui a beaucoup circulé pendant le confinement. Un homme qui a assez de bien pour vivre, s'il savait demeurer chez soi avec plaisir, n'en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d'une place, et on ne recherche les conversations et les divertissements des jeux que parce qu'on ne peut demeurer chez soi avec plaisir. Mais quand j'ai pensé de plus près, et qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu en découvrir les raisons, j'ai trouvé qu'il y en a une bien effective qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle, et si misérable que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près. Voilà la condition tragique de l'homme moderne qui est poussé au divertissement pour se détourner de l'évidence de cette condition tragique, surtout pour le libertin chez Pascal, c'est-à-dire celui qui à la fois peut s'en sortir. Et donc que propose ce divertissement? Eh bien précisément, je le disais, de substituer au manque d'être un manque d'avoir. Les jeux, les plaisirs, la guerre, enfin tout ce qui nous occupe, quoi. Voilà la réponse que va investir de façon structurelle et massive le capitalisme des temps modernes et plus tard le consumérisme de masse. Après tout, consommer, c'est la forme contemporaine du divertissement. Jouer sur le désir d'objet, donc, plutôt que sur le désir d'être, ce qui est bien plus facile et d'une certaine manière efficace. Mais un objet, il est toujours à portée de main. On pourra toujours en racheter. Après, on jette, puis après, on rachète. C'est fait pour ça. Alors, ce détournement, en effet, vient toucher en nous la force du désir dont nous parlait Caliquès. Toujours en mouvement, jamais rassasié, jamais satisfait, et pour cause. On lui donne pour alimenter son moteur quelque chose d'un autre ordre, non pas l'être, mais l'avoir. L'avoir, par définition, ne pourra pas combler un désir d'être. C'est logique. Et il me semble que c'est ce qu'a fait le marketing, ce glissement, ce déplacement, dès les débuts de la production industrielle, rendre indispensables des biens de consommation tout à fait dispensables, hein, créer de nouveaux désirs pour écouler de nouveaux objets, et ce, donc, dans une course sans fin. Et donc, nous y sommes. Jamais le marché n'a si bien fonctionné, et on comprend pourquoi. Sauf que, et c'est le dernier temps de cet exposé, sauf que, eh bien, vous le savez, hein, le modèle a rencontré sa limite dans la crise climatique, le réchauffement de la planète et la fin programmée des énergies fossiles. Ce qui semblait illimité se voit imposer une limite. Hein, nous savons tous, même si nous n'agissons pas forcément en conséquence, que le modèle d'un capitalisme de marché n'est pas viable à terme. Nous qui, depuis le XVIIe siècle, vivons dans ce paradigme de l'infini, nous découvrons, à nos frais, qu'il faut en changer. Le fini est revenu limiter notre horizon. Non seulement, comme le disait Valérie, les civilisations sont mortelles, mais également notre planète, le Soleil, et pourquoi pas l'univers, qui constituait jusque-là notre environnement. Et c'est alors que l'un des mots d'ordre surgit, la décroissance. Consommer moins, s'abstenir, revenir au modèle antique de la sobriété. Et que fait alors le capitalisme, qui toujours lui aussi renaît de ses cendres et absorbe tout ce qui viendrait lui faire obstacle, hein, le contredire, un peu comme la société du spectacle de Guy Debord, hop, il y a quelque chose qui vient faire obstacle, on le réintègre dans le système, et bien précisément, il intègre le sang dans sa propre logique de marché. Et donc on retombe sur ce par quoi on a inauguré ces propos, en mettant en avant une logique de décroissance, pour participer à la croissance, le marketing parvient à perpétuer et à alimenter le consumérisme, mais en vendant en prime une double éthique. Alors l'éthique de la bonne conscience écologique, après tout, hein, on est tous conscients des dangers et on a tous envie de participer, on a tous envie d'en être, hein, de cet effort collectif. Et si acheter de la Nutella sans huile de palme nous garantit cette vignette engagement écologique, eh bien, nous sommes quittes. Alors, bien sûr, le problème, c'est que la facilité avec laquelle on s'achète cette bonne conscience, déjà, il faut en avoir les moyens. Autrement dit, votre engagement éthique a un prix. Hein, seuls les riches sont engagés. Risque de nous détourner d'un vrai engagement au profit justement de cet effort collectif. C'est-à-dire que si on a l'impression, en achetant du sang, que, bon, voilà, ça y est, on a apporté notre pierre à ce mouvement et à cet effort contre la crise écologique, bon, est-ce que ça ne nous détourne pas, d'une certaine manière, d'un réel engagement ? Première chose. Engagement qui, lui, consisterait plutôt à ne pas consommer, plutôt qu'à consommer sans. C'est-à-dire qu'on prend la préposition, au lieu de la mettre derrière, on la met devant. Ou engagement qui pourrait prendre encore d'autres formes, politiques, associatives, éducatives, que sais-je. Alors, déjà, il y a un petit problème à se dire que l'éthique a un coût. Alors, non pas un coût symbolique, mais un coût financier. C'est quand même assez problématique de se dire que, encore une fois, il faut avoir les moyens, hein, pour être écologique. On pourrait supposer que si l'éthique est monnayable, ben, c'est qu'on peut se faire un souci, en tout cas que l'éthique, c'est pas à cet endroit-là exactement qu'elle se place, même si, encore une fois, je répète, hein, c'est mieux d'acheter sans plus avec. Mais en tout cas, là n'est pas tout notre engagement et toute notre éthique. Et puis, l'autre bien qu'on achète dans le sang, hein, et qui est aujourd'hui promu comme une sorte de valeur incontestable, je l'ai dit au départ et je vais y revenir, c'est la santé. Alors, c'est intéressant cette question de la santé. D'abord, nous pouvons donc désormais boire de l'alcool sans alcool. Alors, par exemple, c'est quand même quelque chose d'assez paradoxal, prenons l'alcool sans alcool. Alors, qu'est-ce que peut être de l'alcool sans alcool ? Rien. Si j'enlève l'alcool à l'alcool, c'est qu'il n'y a donc plus d'alcool. Donc c'est un ersatz, c'est autre chose, etc. Mais vous voyez, dans la formulation d'alcool sans alcool, bon, en fait, on ne boit rien. Donc en fait, on ne consomme pas. Sauf qu'on l'a quand même acheté, la bouteille d'alcool sans alcool. Ensuite, alors il y a aussi évidemment tout ce qui est sans sucre, sans beurre, etc., etc. Autrement dit, dans cette idée de l'alcool sans alcool ou du croissant sans beurre ou ce genre de choses, il y a cette idée, cette injonction qu'on peut se faire plaisir sans mettre en danger notre santé. Mais justement, est-ce que le plaisir est toujours là ? Est-ce que vraiment de l'alcool sans alcool, c'est bon ? Et si on aime l'alcool, pourquoi ne pas boire un bon verre de vin ? Qui, à mon avis, est quand même un peu meilleur, au goût en tout cas, qu'un verre sans alcool. Et là, on retrouve le déplacement entre consommer sans et ne pas consommer. Si vraiment on ne veut plus boire d'alcool, et ben on arrête. Et donc, quel statut a ce substitut de boire de l'alcool sans alcool, qui ne fournit donc aucun des plaisirs de l'alcool, mais qui tient quand même lieu d'ersatz ? Ce qui donc, ici, est très clairement privilégié, encore une fois, c'est la santé, au détriment du plaisir. Alors, c'est intéressant, pourquoi la santé est-elle devenue cette valeur que j'avais commencé par mettre entre guillemets ? D'abord, cette santé, de la même manière que l'engagement écologique, elle s'achète. Ok, donc déjà, bon... ça questionne un petit peu. Ensuite, ici, il n'est pas question de renoncer à boire. Hein. Le sang permet justement de continuer d'acheter de l'alcool ou des sucreries, car ce n'est, encore une fois, ça n'est plus le plaisir qui est acheté, mais cette santé. Donc la santé serait devenue un bien de consommation, en plus d'être perçue comme une valeur. On a deux choses un peu bizarres. La santé serait une valeur, donc les gens en mauvaise santé seront des gens moins, je ne sais pas, performants, moins importants, moins intéressants, moins dignes que des personnes en bonne santé. C'est déjà extrêmement problématique, hein, de faire de la santé une valeur. Je ne dis pas tout le monde a envie d'être en bonne santé, hein, c'est pas la question. Mais la santé est d'abord un bien, c'est-à-dire que tout le monde devrait pouvoir accéder aux soins. Voilà quelque chose qui pourrait être garanti politiquement. Mais avoir accès à la santé, ça, aucune politique ne peut le garantir. Avoir accès à la santé, bon, ben, c'est la loterie de la vie. Et donc, être plus vulnérable, être en mauvaise santé, évidemment, ne fait pas de vous quelqu'un de moins digne que quelqu'un qui serait en bonne santé. Donc, faire de la santé une valeur, c'est accepter d'une certaine manière l'idéologie de la performance, si vous voulez. Donc, non seulement cette santé s'achète, mais en plus, elle est valorisée. Et valoriser la santé, comme on le fait, enfin, dire quand il y a eu la crise du Covid, la seule chose à laquelle on a tout sacrifié, c'est quoi ? C'est la santé. Alors, certes, il n'y a pas eu le temps d'avoir un débat public sur est-ce que vraiment c'est la valeur principale de notre société, parce que c'était une urgence, enfin, une politique d'urgence, une gestion de la crise. Mais enfin, ça serait quand même intéressant de mettre au débat public cette question-là. Est-ce que la santé est une valeur ou est-ce que c'est plutôt un bien ? Est-ce que la santé psychique, par exemple, n'aurait pas été intéressante à prendre en compte dans le choix des politiques publiques qui ont été faites ? On sait bien aujourd'hui à quel point le confinement a été délétère, notamment pour les jeunes. Et aujourd'hui, on parle de la santé psychique comme quelque chose de fondamental sur lequel il faut réinvestir, etc. Bon, en tout cas, tout ça pour dire, je ne vais pas rentrer dans une critique de ce qui a été fait, mais juste de souligner le fait que qu'on allait sacrifier tout à la santé biologique était incontestable. Enfin, ça n'a pas été remis en cause, ça a été une évidence, quoi. Et si ça a été une évidence pour tout le monde, c'est bien que, de manière sous-jacente, la santé, dans notre société, est devenue une valeur. Bien, donc... donc je disais que si la santé était devenue une valeur, si derrière cette idée de valeur, il y avait cette idée de performance, eh bien, à l'horizon, qu'est-ce qu'on voit ? On voit poindre l'idéologie qu'on appelle l'idéologie transhumaniste. Que fait l'idéologie transhumaniste ? Eh bien, elle cherche à éradiquer la vulnérabilité, le vieillissement et, à terme, pourquoi pas, la mort. Alors, c'est intéressant, là aussi, cette idéologie transhumaniste, parce que tout en étant l'aboutissement de cette idée que la santé serait une valeur supérieure, elle rencontre bien notre idée que le sang ou que le manque est quelque chose d'insupportable. L'homme transhumaniste, l'idéal du transhumaniste, c'est l'idéal du plein. C'est l'idéal de l'invulnérabilité. C'est l'idée qu'on ne manque plus de rien et que la maladie ou la vieillesse serait de l'ordre d'un manque. C'est ça, hein, qui, de manière sous-jacente, qui est promue dans l'idéal transhumaniste. Et donc, si l'homme ne meurt plus, s'il ne se heurte plus à la souffrance, à la défaillance, au doute, on pourrait se demander, est-ce qu'il est encore un homme ? Je laisse cette question peut-être pour plus tard, lors de la discussion. N'est-ce pas précisément la conscience qu'il est mortel, la façon de réagir à sa vulnérabilité première, comme dans le mythe de Prométhée, qui est en fait un humain ? Hein, souvenez-vous, ce qui fait de l'homme un homme, c'est précisément qu'à partir de sa vulnérabilité, il va être contraint d'inventer quelque chose de nouveau. C'était donc du manque de sa condition première qu'il naissait en quelque sorte à son humanité. Alors si on enlève le manque, bon, il n'a plus besoin d'aller chercher le feu, ça c'est sûr, et donc, il n'a plus besoin non plus de mettre en œuvre son inventivité, sa créativité, et tout ce qui meut une forme de désir d'être, et non pas de désir d'avoir. Ainsi, le sang permet d'inclure les deux grands impensés et les deux grands dogmes dans la logique capitaliste, qui, à ce compte, n'a aucune raison de se remettre en cause. Lorsque vous achetez un produit, vous participez à la décroissance, puisque vous achetez un produit sans, et vous obtenez un gain de santé. Ce en quoi, donc, vous participez là aussi à la grand-messe collective qui sanctifie la santé au détriment d'autres valeurs. Et on pourrait s'amuser à s'interroger sur quel autre type de valeurs on pourrait partager. Ce n'est pas donc un hasard si cette logique capitaliste promet le bonheur à l'aide de gourous du bien-être et du développement personnel. Tous les mots d'ordre actuels tournent le dos à la difficile question du manque. Oui, nous sommes des êtres manquants, ce qui est terriblement angoissant. Pourquoi ne pas accepter cette angoisse ? Et au lieu de chercher à résoudre la crise écologique en consommant, pour chercher à satisfaire le manque, peut-être pourrions-nous investir d'autres champs en affrontant ce manque, en le creusant, pourquoi pas, en l'acceptant. Et accepter le manque, eh bien, c'est comme le fait l'homme à qui Prométhée a amené le feu, c'est créer, c'est s'engager, c'est aimer, par exemple, qui ne sont pas des voies faciles, hein, encore une fois, elle suppose, il va bientôt me lâcher, mais c'est pas grave, c'est presque terminé, elle suppose l'angoisse, ces voies-là, elle suppose le doute, peut-être même parfois une certaine forme de souffrance, mais elle donne un tout autre sens que celui promis par la logique commerciale d'une santé éclatante, à condition qu'on continue de consommer des biens inutiles. Accepter notre finitude, nous qui aspirons à l'infini, vivre donc cette tension sans nécessairement la résoudre par le divertissement. Et je terminerai alors par cette citation de Victor Hugo, que j'ai mis en exergue de mon livre. Une fiente d'aigle révèle un sommet. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Claude Millet, qui est une spécialiste de Victor Hugo, commente cette phrase. Ceux qui ont la perfection n'ont pas l'infini. Il leur manque ce que Hugo appelle la fiente d'aigle. Victor Hugo, comme Picasso, cherche à inachever leur œuvre pour que cet inachèvement, cette faille, ce trou, ouvre vers l'infini. Et c'est vrai que Picasso, lorsqu'il terminait ses œuvres et qu'elles étaient trop parfaites, venait y ajouter quelque chose qui permettait cette ouverture par l'inachèvement. Voilà, je vous remercie.
S'organiser pour que vous puissiez poser quelques questions à Mazarine Pajot. Donc, il faut toujours du courage pour être celui qui pose la première question. Donc, il va oser lever le doigt en premier.
Merci beaucoup pour cette brillante et passionnante intervention. On se demande comment on a pu vivre sans. Mais ouais, j'aimerais comprendre comment on peut placer ou intégrer ce thème, hein, cette thématique du vivre sans, avec des notions de développement de société comme progrès ou innovation. Alors, sur le progrès, on voit bien qu'il fait suite aux évolutions techniques, technologiques, révolutions industrielles, scientifiques, etc. Il semble que finalement ça réponde finalement au manque, mais au manque réel. Alors est-ce que c'est cela? Et est-ce qu'à contrario, l'innovation... Enfin, le progrès, on dirait qu'on pourrait le placer jusqu'à la fin du XXe siècle, et on va dire depuis les années 2000, on parle plutôt d'innovation, on ne parle plus jamais de progrès. Est-ce que l'innovation, ce n'est pas justement les phares des entreprises, hein, que symbolisés par le marketing que vous évoquiez, mais finalement pour répondre à un manque qui est un manque superficiel, quoi. Donc est-ce qu'au moment du progrès, on n'était pas en réponse à un manque réel pour passer finalement à une réponse avec l'innovation à du manque superficiel, c'est-à-dire qu'on crée des besoins qui n'existent pas?
Alors, en fait, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit qu'il faudrait déplier parce que c'est dense et riche. Alors, il y a l'opposition innovation-progrès et puis il y a la question du progrès scientifique tout simplement. Et du statut peut-être de la science comme réponse au manque. Bien sûr que la science, comme les religions, alors à des niveaux différents, cherche à répondre au manque. C'est-à-dire que dans la science, il y a l'idée qu'un jour, on connaîtra tout, enfin, de manière asymptotique, puisqu'évidemment, ce sera impossible. Mais il y a cette idée, et c'est ça qui conduit l'idée du progrès, hein, on chemine vers un but, cette idée que peut-être que tout sera de l'ordre du connaissable. Ça, c'est la logique de la science, c'est normal, enfin, elle est... Elle est fondamentale. Là où la science se trompe, c'est quand elle pense qu'elle peut non pas tout expliquer, parce que ça peut-être qu'elle pourra tout expliquer, mais qu'elle est le seul discours possible sur le monde. C'est-à-dire que c'est le biais du positivisme lorsqu'il considère que l'état scientifique sera en fait un discours total. évidemment que la science, et c'est par exemple, quand je parlais du transhumanisme, c'est ça, c'est l'idée que la science va enfin régler le problème de la condition humaine et de la détresse de l'homme qui consiste à savoir qu'il est mortel. Bon, la réponse qui est donnée à cette béance, là pour le coup à un manque qui est celui de sa condition existentielle, la réponse, là, elle est scientifique, c'est-à-dire qu'on considère qu'en manipulant la nanotechnologie, en hybridant avec la biologie, on va trouver la réponse au manque, on transforme l'homme en une sorte de machine ou je ne sais quoi, et il devient éternel. Bon, la réponse, elle est matérielle. Évidemment, c'est pas parce qu'il est éternel qu'il va trouver le sens de sa vie. L'homme, enfin, de toute façon, il n'aura plus besoin de sens, puisque la question du sens se pose plus, d'un point de vue presque littéral. Le sens, c'est justement savoir s'orienter. Quand on est éternel, ben, on n'a plus besoin de savoir s'orienter. Et donc, le temps et l'espace n'existent plus, par définition. Et donc, enfin le temps en tout cas, et donc par conséquent, là où se trompe la science, c'est quand elle pense répondre à un manque existentiel, alors que ça n'est pas la bonne réponse, enfin, elle n'appartient pas au même plan tout simplement, donc elle ne peut pas répondre à une question qui se pose d'un autre plan. Et donc ça, c'est toujours le problème de confondre les différents plans. Et c'est un petit peu la croyance scientiste, que de dire ben, la science va résoudre tous les problèmes. Ben non, bien sûr que non, parce que tous les problèmes ne sont pas d'ordre scientifique. La science, elle pourra peut-être un jour résoudre tous les problèmes d'ordre scientifique, mais elle ne résoudra pas les problèmes d'un autre ordre, comme des problèmes politiques, par exemple. Ou, parce que c'est très dangereux quand on pense que la science va résoudre des problèmes politiques, c'est qu'on pense qu'il existe une vérité du politique, et donc on l'applique, quoi. Ou elle ne va pas résoudre des problèmes d'ordre amoureux, où elle ne va pas résoudre des problèmes de l'ordre, tout simplement, encore une fois, du questionnement, hein, du questionnement existentiel. Donc voilà le problème de la science, c'est qu'en elle-même, elle n'est pas du tout un problème, au contraire, heureusement. Et heureusement qu'elle découvre, alors soit elle a des applications technologiques, là, c'est le deuxième pan de votre question, mais dans son mouvement même, elle va nécessairement vers le progrès. C'est le sens même de la science. Mais on sait bien, et vous l'avez rappelé jusqu'au XXe siècle, enfin, en tout cas, on sait bien que le progrès scientifique est découplé du progrès pour l'humanité. Et à partir de l'invention de la bombe nucléaire, on sait que la science peut détruire l'humanité, et là, le divorce, il a été consacré. Et donc, on sait que la science apportera beaucoup de choses à l'humanité, mais ne garantit certainement pas un progrès pour l'humanité. Et donc, progrès moral, entre guillemets, ou progrès scientifique, sont deux voies parallèles, mais qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, même si l'une peut parfois quand même aider l'autre. Enfin, elles peuvent se rencontrer. Donc, en effet, voilà. Donc, la question du manque ne sera pas résolue par la science. Enfin, du manque, je parle du manque d'être, hein, du manque comme structure. Je ne parle pas du manque de... Enfin, c'est vraiment un manque spécifique. J'évacue assez rapidement dans ma réflexion la question d'un manque du sang lorsqu'il concerne les hommes. Parce qu'on remarquera que lorsqu'on achète volontiers du savon sans parabènes, en revanche, le sang, lorsqu'il est accolé aux hommes... C'est toujours des situations dramatiques. C'est sans domicile fixe, sans papier, sans... Et là, c'est les exclus de la société, quoi. Donc d'un côté, le sang, il est promu comme une vertu, et de l'autre, il exclut. Le sang de l'exclusion, c'est pas celui que je traite dans ce livre, même si j'en parle précisément pour dire que je n'en parlerai pas, mais il faut quand même pas l'oublier parce qu'il est central également. Mais il y a quand même une logique entre la promotion du sang d'un côté et l'exclusion du sang de l'autre. L'un est en lien avec l'autre. Donc voilà. Et sur la question des innovations, c'est un petit peu la même chose. C'est qu'on, alors oui, il y a toujours un usage futile et inutile des innovations. Ça, on le sait bien. Mais en tant que telles, elles sont quand même toujours intéressantes, hein, les innovations. Mais je pense, et je rebondis, et peut-être que, enfin, pas exact tout à fait la question, mais quand même, elle portait ça en elle. Par exemple, les dernières grandes inventions, là aussi, sont des promesses du plein. Je pense par exemple à l'intelligence artificielle générative. ChatGPT, il est construit pour vous répondre. C'est-à-dire que l'horizon de l'intelligence artificielle et encore plus l'horizon de l'intelligence artificielle générative, c'est le savoir total. C'est-à-dire que dans ce monde du virtuel, il n'y a pas de faille, il n'y a pas de vulnérabilité. Il y a toujours des réponses. Alors elles sont peut-être fausses, hein, mais il y a toujours des réponses. Le questionnement, ce qui initie la philosophie, Socrate, hein, qui se promène dans les rues d'Athènes, qu'est-ce qu'il fait ? Au lieu d'ajouter du savoir au savoir et de dire, bah voilà, j'aimerais savoir ce que c'est que la justice, je vais aller demander à des gens qui sont censés savoir, des juges, des, je sais pas, enfin, voilà, ceux qui ont la connaissance, donc je vais leur demander c'est quoi la justice. Et ce qu'il fait, c'est pour ça que la philosophie, elle bouleverse le champ des sens, parce que les sens, ça existe déjà. C'est qu'au lieu de dire, bah moi je sais, je vais vous dire ce que c'est, il va dire, bah moi en fait, je vais vous apprendre un truc encore plus compliqué, c'est qu'en fait je ne sais pas. Et non seulement je ne sais pas, mais vous ne savez pas non plus. C'est-à-dire que vous croyez savoir, mais en fait ce que vous croyez savoir, vous ne le savez pas. Et donc ce qu'il introduit, c'est pas du plein, c'est pas du savoir, c'est du manque. C'est une question. C'est est-ce que vraiment ce que vous croyez savoir, vous le savez ? Sur quoi ça repose ce savoir ? Voilà, c'est ça. La philosophie, c'est ça. C'est on introduit du manque dans l'univers du plein. ChatGPT va jamais mettre en doute votre propre parole, au contraire, il dit vous êtes génial, votre question est géniale. Il est toujours dithyrambique, c'est vraiment votre meilleur ami. Mais au-delà de ça, qui est juste une question de programmation, il est là pour répondre. Je veux dire, l'outil de l'IA générative, c'est fait pour répondre, c'est pas fait pour poser des questions. Or, la seule chose dont l'homme soit capable, soit humainement vraiment capable par rapport à l'intelligence artificielle, c'est de poser des questions. C'est-à-dire pas accepter les questions telles qu'elles sont aujourd'hui posées. Parce que si on fait que répondre aux questions qui sont aujourd'hui posées, c'est qu'on les accepte telles quelles dans leur formulation. Or, il y a quand même un certain nombre de questions qui sont mal formulées. Et si vraiment on veut, réfléchir politiquement, faire bouger des choses, ou pas forcément que politiquement, mais bah, il faut reformuler les questions. Et ça, bah, c'est pas ChatGPT qui le fera, parce que de toute façon, il génère du texte statistiquement, donc il génère ce qui existe déjà, quoi.
Si j'ai été suffisamment attentif, je n'ai pas entendu le mot sagesse dans votre propos. Mais par contre, il me semble avoir entendu un bel appel à la sagesse. Je veux dire, dans notre époque, me semble-t-il, on a oublié la sagesse, on a mis à la place l'être bien, notamment en consommant. Le manque n'est-il pas justement cette motivation et cette provocation à la sagesse ?
Alors là, c'est une réponse très épicurienne, en quelque sorte, que vous faites. C'est-à-dire que c'est là, en tout cas, c'est ce qu'on peut trouver dans la philosophie antique. C'est-à-dire cette idée que la sagesse, c'est justement renoncer à certains types de désirs. Pas à tous, mais à certains types de désirs qui viendraient dérégler notre vie. Et donc, c'est accepter peut-être une forme de manque. Mais en l'acceptant, en fait... En acceptant ce manque, en réalité, on vit dans une forme de plénitude. Voilà, ça, c'est la réponse de la philosophie antique. Elle est difficile aujourd'hui à donner. Elle est difficile parce que... alors, ça peut être une éthique personnelle, ça peut être une ascèse personnelle, mais visiblement, politiquement, ça ne marche pas. En tout cas, le récit, il n'emporte pas les foules, quoi. Ça se verrait, sinon. Et donc, on n'a plus cette sagesse antique. Enfin, ou à titre individuel. Dans ce cas-là, on se retrouve entre sages et on laisse le bruit du monde à l'extérieur. C'est une possibilité, c'est un peu ce qu'a fait Épicure. Hein. Mais le problème, c'est que là, le monde, il va quand même nous rattraper. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il y a une manière de transformer la sagesse antique dans un monde moderne, quoi, où les paramètres ne sont plus les mêmes. Et est-ce que ce récit-là peut être désirable? Il l'est aux gens qui sont déjà sages, en fait. Mais ceux qui ne le sont pas, comment on fait pour les amener à ça? J'ai pas la réponse.
Merci beaucoup déjà pour votre présentation. Je voulais revenir sur vos exemples du départ, c'est-à-dire le sans parabènes, sans produits chimiques, etc. En fait, il me semble que le point commun de tous ces exemples, c'est que c'est toujours la recherche de produire de nouveaux produits, de nouveaux biens, d'une façon moins efficace que la façon la plus efficace possible. C'est-à-dire, il y a toujours un détour. Plutôt que produire directement de la façon la plus rentable, efficace, etc., on va le faire à la main plutôt qu'avec une machine. On va le faire avec un produit qui nous oblige à trouver d'autres substituts, etc., etc. Et au fond, je me demande s'il n'y a pas quelque chose que ça dit sur le rapport à l'efficacité. C'est-à-dire, en fait, une certaine forme de refus d'être efficace pour des tas de raisons et de se dire, au fond, finalement, je préfère un produit plus compliqué à produire et donc, en fait, à la fin, comme vous disiez, finalement, plus cher, plus demandant plus de travail, plus de main-d'œuvre, quelque chose comme ça. Et ce refus d'efficacité, j'ai l'impression, on le retrouve aussi dans ce questionnement sur la santé que vous avez. Enfin, je repense par comparaison à Descartes, quand il parle de devenir maître et possesseur de la nature, il enchaîne en disant, évidemment, c'est d'abord pour la santé, la médecine, c'est le truc le plus important, au sens où pour faire quelque chose, quoi qu'on veuille faire, en fait, il faut déjà être vivant, en fait, c'est trivial. Et donc pour lui, pour Descartes, c'est même si j'impose pas un projet, il faut quand même qu'on soit en bonne santé, quoi. Donc je me demande s'il n'y a pas un peu ce refus de l'efficacité, il ne va pas en même temps avec une sorte de questionnement sur l'importance de la santé, de dire accepter ses limites. Enfin, vous voyez, je me demande si on peut.
Oui, mais alors je suis pas sûre qu'on soit vraiment dans le refus d'efficacité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a intégré les paramètres écologiques en mettant en avant une fabrication plus artisanale ou en retour un peu aux sources. Enfin voilà, c'est un peu un imaginaire passéiste qu'on convoque pour donner envie. Mais en réalité, c'est quand même. Enfin, quand on va acheter dans son supermarché du savon sans parabène, on ne sait pas comment il a été fabriqué. Enfin, d'ailleurs, on ne sait même pas ce que c'est que le parabène. Hein, non, c'est juste qu'on croit sur parole que c'est meilleur pour nous. Donc, je dirais que, oui, vous avez raison, sauf qu'il me semble que c'est plus de l'ordre d'un discours que d'une réalité. Dans l'absolu, c'est ça qui serait l'idéal, en fait. C'est-à-dire accepter que les choses ne soient, enfin, que l'efficacité ne soit pas le maître mot de nos sociétés. Mais je n'ai pas l'impression que ça soit le cas. Voilà, la preuve. Non, oui, là au contraire, je suis démentie. Enfin, voilà. Je n'ai pas l'impression qu'en entreprise, on fasse des détours, enfin, qu'on cherche vraiment à faire des détours et à contourner l'efficacité. Enfin, je n'ai pas. Mais en revanche, ça serait intéressant justement de lutter contre l'efficacité. Ça serait presque. C'est une notion intéressante, l'efficacité, en effet. Et en tout cas, dans le discours, il y a cette idée-là, vous avez raison, qui visiblement fonctionne dans le discours. Mais je ne suis pas sûre que ça soit réel derrière.
Je vais me permettre d'intervenir par rapport à mon ancien métier. Parce que le sans parabène et le sans collagène au moment de la crise de la vache folle, ça véhicule effectivement l'idée qu'on va préserver la santé. Or, en fait, on ne se pose pas la question par quoi on a remplacé les parabènes, le collagène. Et je peux vous dire que c'est catastrophique. C'est-à-dire que les parabènes, dans bien des cas, on les a remplacés par des choses beaucoup plus toxiques. Quant au collagène, le substitue 1000 morts au Japon. Voilà. C'est vraiment.
Alors c'est sûr que quand on met en avant le sang, quelque chose, évidemment, on ne dit pas ce qu'il y a dans le produit. Quoi. Enfin, c'est une manière de ne pas dire ce qu'il y a dans le produit. Après, on peut aller lire hein, les tout petits trucs et tout, mais bon, à part les chimistes ou les, je sais pas, ou les médecins ou les biologistes, enfin, ça parle à personne, quoi. Donc c'est vrai. C'est pour ça que ce qui est mis en avant, c'est pas tant le produit lui-même que l'absence. En fait, c'est le sang qui donne envie. C'est pas parabène, encore une fois, enfin voilà, quand on n'est pas de la partie, on ne sait pas ce que c'est. Mais en revanche, ça, ça donne confiance, parce qu'il n'y en a pas. Et donc c'est... alors évidemment, après, encore une fois, c'est lié aussi à des scandales sanitaires. Enfin, il y a toujours une cause en première analyse. Hein, je dis pas, mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi le marketing a misé sur ce mot. Et c'est hyper intelligent, en fait.
Oui, je voudrais revenir proposer une définition. Vivre, est-ce en partie penser ses manques et les penser avec des cataplasmes plus ou moins adéquats. Je pense que c'est un peu intégré dans la sagesse populaire par rapport à des expressions, comme, par exemple, quand on parle d'une action qui n'est pas inadéquate, on va dire à la personne, tu viens de mettre un cataplasme sur une jambe de bois. Ou par rapport à quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, on va lui dire, celui-là, il n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter.
Alors, il y a un moment donné où je n'ai pas entendu, en fait, parce que le micro a... C'est au tout début. Donc c'était sur... oui.
Enfin, je propose une question. Par rapport à vivre, est-ce en partie penser ses manques?
Ah oui, voilà.
Et les penser avec des cataplasmes.
Ah.
Plus ou moins adéquat.
Ok, oui, ça y est, j'ai raccroché.
Merci.
En tout cas, dans la première partie de votre définition, moi, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que vivre, c'est penser ses manques. Après, ça ne veut pas dire justement les remplacer par... Enfin, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait après? Est-ce qu'on essaie de les dépasser par une entreprise quelconque? Ou est-ce que justement, on met des cataplasmes, c'est-à-dire on les bouge, quoi? Enfin, ça, encore une fois, ça revient au divertissement pascalien dont on a parlé tout à l'heure. Donc en fait, il y a deux options. Est-ce qu'on accepte de regarder en face ses manques qui, encore une fois, sont douloureux, anxiogènes. Mais aujourd'hui, c'est marrant, parce que c'est très schizophrénique. C'est que, en fait, on ne supporte pas l'angoisse. Et en même temps, il y a une angoisse terrible dans notre société. La seule chose qu'on nous vend sur les linéaires, encore une fois, de manuels de bien-être, c'est justement essayer d'évacuer l'angoisse. Bon, parfois, l'angoisse, elle peut être créative aussi. Ce que je veux dire, c'est pas, il faut pas être maso et vivre que dans l'anxiété de ça, mais au lieu de absolument la dégager alors qu'elle est là de toute façon, pourquoi ne pas la regarder, l'interroger, en faire quelque chose plutôt que de faire, je sais pas, la méthode Coué en regardant dans la glace tous les matins en disant je suis génial. Voilà, je pense que c'est comme parfois c'est un peu promu dans les modes d'emploi pour aller bien, quoi. Il n'y a pas de mode d'emploi pour aller bien. Ça n'existe pas. C'est une quête personnelle. Donc, c'est intéressant que la réponse aujourd'hui à l'angoisse, ça soit, on va vous donner un mode d'emploi pour surtout la chasser. D'abord, ça ne marche pas. Et ensuite, peut-être que l'angoisse, elle nous raconte quelque chose, quoi. Et peut-être que ça serait intéressant d'aller voir ce qu'elle nous raconte. Et si on chasse le symptôme, on ne chasse pas la maladie, enfin...
Merci. Oui, curieusement, vous ne reprenez pas le terme imminent quelque chose.
Immanent.
C'est bien ça. Pourtant, ce serait la pierre d'achoppement qui permettrait, avec une opposition que vous dites qui ne devrait pas être radicale, d'accoucher d'une nouvelle transcendance, d'une humanité. Mmh. Ça s'est vu dans l'histoire, avant Descartes, entre le dogmatisme et le scepticisme. Descartes a mis tout le monde d'accord. Aujourd'hui, face à cette finitude, cette humanité que vous suggérez serait justement cette transcendance. Mmh. Mais est-ce qu'on ne sauterait pas une étape si effectivement on n'est pas en face quelque chose de radical. Aujourd'hui, on a le fondamentalisme religieux, mais est-ce qu'il ne faudrait pas justement passer par la phase sceptique aussi pour enfin accoucher de cette transcendance que vous dites humanité ?
Je pense qu'aujourd'hui, on a les deux. On a le dogmatisme à travers les fondamentalismes, mais on a aussi le scepticisme. On baigne dans le scepticisme. Théorie du complot, le doute généralisé. Enfin, on est vraiment exactement dans ce que vous décrivez, cette alternance, qui d'ailleurs est logique, hein, entre dogmatisme et scepticisme. C'est ce que Kant disait dans sa préface de la critique de la raison pure, sur cette alternance permanente entre dogmatisme et scepticisme. On passe de l'un à l'autre, parce que finalement, c'est les deux contraires qui s'assemblent, quoi. Alors, pour l'instant, le nouveau Descartes n'est pas encore arrivé, ou peut-être est-il là, mais on ne connaît pas, on ne l'a pas entendu. Mais oui, bien sûr, l'idée, c'est de sortir de cette oscillation. Alors, la réponse de Kant, qui était la plus intéressante, c'est la critique. Voilà, c'est la critique pour justement ni tomber dans le dogmatisme, ni dans le scepticisme. Mais bon. On ne va pas rentrer dans un cours sur Kant, ça me paraît un peu... Mais oui, en tout cas, mais ça serait intéressant de reprendre aujourd'hui le travail de la critique. Mais pas critique au sens de critiquer pour critiquer, de la critique pour distinguer les ordres, pour distinguer les champs, pour distinguer ce qu'on peut connaître, ce qu'on veut savoir, ce qu'on peut faire, enfin voilà, distinguer les ordres justement. D'un côté, il y a la science, de l'autre, il y a le champ de la vie, enfin, de l'existence. D'un côté, il y a la santé, c'est un bien. De l'autre côté, il y a des valeurs, la santé n'en fait pas partie. Enfin, voilà, critiquer, c'est-à-dire assigner des distinctions, des limites aux différents champs qui ne doivent pas se superposer, se confondre les uns avec les autres. Ça serait intéressant de mener un travail critique aujourd'hui, à travers un doute raisonnable, comme celui de Descartes, mais sans pour autant tomber dans un doute permanent, qui serait celui des sceptiques. Mais la voie est étroite.
Bonsoir. Le titre de votre livre s'appelle « Vivre sans ». Mais est-ce que le « sans » que vous évoquez n'est pas juste la société qui nous fait croire qu'il manque quelque chose pour juste capitaliser dessus et utiliser la paranoïa des habitants par rapport à la santé pour se faire beaucoup plus d'argent qu'ils ne pourraient en avoir.
Oui, alors le sang, en tout cas, j'inverserai le rapport de causalité. C'est parce que nous sommes des êtres manquants que le consumérisme que vous évoquez fonctionne. Après, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il alimente ce manque, puisqu'il a besoin du manque pour recréer des désirs. La consommation, elle ne fonctionne que sur le manque. Et donc, c'est parce que, d'abord, nous sommes des êtres manquants que cette réponse économique fonctionne aussi bien, et pas l'inverse. Mais après, oui, je souscris à vos paroles.
Si on passe du plan matériel au plan, si on passe du plan matériel au plan humain, vivre sans, ça peut être aussi vivre sans un être cher qui a disparu. Et cette absence peut être aussi présente au quotidien. Donc c'est pour avoir votre regard, est-ce que ça peut être signe d'un vide, ou à l'inverse, ou en même temps, d'une plénitude, de la reconnaissance par exemple de sentiments amoureux? Ou est-ce que ça peut aussi avoir à faire avec l'infini ou l'éternité?
Alors, pour répondre à votre question, je vais le faire en deux temps. Je ne traite pas du tout de l'absence, je ne traite pas du deuil. C'est vraiment pas l'objet de mon propos, parce que c'est autre chose, la question du deuil. Même si le deuil est quand même une transformation du sang en autre chose. Comme la question du sang, je l'investis comme quelque chose justement qu'il faut valoriser. Je valorise pas le deuil. Enfin, vous voyez, donc c'est pas du tout, ça rentre pas. Même si le processus du deuil ressemble quand même à cette idée de transformer en manque en quelque chose d'autre, je le mets de côté parce qu'on est quand même dans un autre registre. En revanche, sur la question du manque, le manque, il nourrit, il alimente la relation amoureuse. C'est-à-dire que lorsqu'on est amoureux, et là, ensemble, y compris ensemble, on est toujours en manque de l'autre, même s'il est là. Si l'autre ne nous manque pas, même s'il est là, c'est qu'on, on peut l'aimer, mais bon, je veux dire, le sentiment amoureux, il est nourri par l'idée que je ne peux pas posséder l'autre. Qu'il est à portée de main, mais qu'il me résiste en quelque sorte. En tout cas, il résiste à mon appropriation. C'est parce que je ne peux pas me l'approprier que je l'aime, sinon je ne ferai que le consommer. Et s'il résiste à cette appropriation, eh bien c'est ça qui fait que le sentiment amoureux est alimenté. Et donc, le manque habite la relation amoureuse, en fait. Et une relation amoureuse sans manque, je ne sais pas si c'est une relation amoureuse, vous voyez. Et donc c'est pour ça que le manque, il a aussi des vertus. Alors on peut se référer, là, pour les profs de philo, aux analyses de Sartre sur l'amour, qui sont très belles, sur « je suis une liberté face à une liberté ». Si l'autre est un objet que je peux posséder, ben, je ne l'aime plus. Inversement, j'ai besoin qu'il soit une liberté pour... alors d'abord, pour qu'elle me résiste, mais aussi pour moi ne pas être... pour qu'il m'aime, quoi. S'il est déterminé à m'aimer, c'est donc qu'il ne m'aime pas. Vous voyez, donc... Donc il y a cette question du manque dans la circulaire dans la relation amoureuse. Et ça, c'est intéressant de se dire que la relation amoureuse, bah, c'est pas la plénitude. Et c'est pas grave, même si on la recherche.
Ouais. Et, pour aller dans le sens de la demoiselle qui était derrière moi tout à l'heure, sur le capitalisme, vous avez dit tout à l'heure, si je ne me trompe pas, que
le capitalisme ou du moins le consumérisme arrivait avec un coup de frein parce qu'en fait les ressources sont limitées. Et du coup, c'est ça qui mettait un coup de frein. Est-ce qu'il n'y a
pas un autre coup de frein qui est mis au capitalisme? Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit la seule cause, mais ce serait aussi un échec du consumérisme, plus que du capitalisme, à répondre à ce manque, justement. Est-ce qu'il n'y aurait pas un vrai échec de répondre à ce manque par cette surconsommation? Et pour le dire autrement, on est la société qui consomme le plus dans l'histoire, et on n'est a priori pas du tout les plus heureux. On est peut-être les plus malheureux, je ne sais pas. Mais...
je ne sais pas s'il y a une grille qui permet de comparer les bonheurs des époques. Mais oui, bien sûr, vous avez raison. De toute façon, par définition, je le disais, la réponse par l'avoir ne peut pas combler la question de l'être, structurellement. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est structurel. Si j'ai faim, la couleur bleue ne va pas apaiser ma faim. Enfin, c'est deux choses différentes, voilà. Et donc, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, ça fonctionne. Enfin, ça ne fonctionne pas, mais ça fonctionne. Ça fonctionne dans le sens où ça continue d'alimenter mon désir, et donc mon manque, et donc la promesse de la satisfaction, et donc à nouveau le désir, etc. Enfin, on l'a dit tout à l'heure, encore une fois, on en revient toujours à ce divertissement pascalien, c'est que ça fonctionne. On est tous consommateurs, enfin, en tout cas... Moi, je le suis. Je veux dire, je la sens, cette petite excitation quand je vais m'acheter des nouvelles chaussures. Il n'y a pas de... Voilà, c'est comme ça. C'est que ça, il y a bien quelque chose qui est suscité, qui est convoqué dans la promesse de la consommation. Et qui est lié d'ailleurs au départ à un besoin physique. Hein. Si on est des êtres... si nous consommons, c'est que nous avons aussi besoin de consommer pour vivre, de manger, et tous les jours. Et trois fois par jour, si possible. Et de dormir, et ça, c'est à nouveau chaque jour. Donc la consommation, c'est juste une nécessité physique. Que ce soit devenu un système économique, c'est encore autre chose. Mais ce système économique, justement, il répond au manque. Mais il y répond mal. Donc, en fait, il est insatisfaisant. Mais en attendant, il fonctionne. Vous voyez, enfin, son fonctionnement, effectivement, éloigne la possibilité d'une réelle satisfaction.
Il crée du manque.
Oui, c'est pour ça qu'il fonctionne. Mais qu'en même temps, il ne fonctionne pas. Vous voyez, enfin, vous avez raison. C'est-à-dire, bien sûr, il ne fonctionne pas, mais il fonctionne. Et c'est parce qu'il ne fonctionne pas qu'il fonctionne. Parce que s'il fonctionnait, ben, il faut pas qu'il s'arrête.
Ce sera peut-être la dernière.
Oui. D'abord, bonjour. Alors, juste pour info, ChatGPT ne résout pas les problèmes de géométrie. Oui, il produit de l'écrit.
Pas encore.
Non, parce que ma fille en 6e a essayé ça.
Oui, oui, mais c'est... Mais pas encore. C'est qu'il y a encore... Il y a pas mal de choses sur lesquelles il y a encore des petits... Mais ça date de 2022, hein. Donc ça va arriver très, très vite.
Donc, juste deux petits trucs. Est-ce que, en fait... je sais plus, j'avais plus. Donc, est-ce que... donc, la science... Enfin, les besoins ont créé quand même... Non. En fait, l'avancée de la médecine, par exemple, c'était très très bien, mais est-ce que le trop ne joue pas partout? C'est-à-dire, est-ce que l'homme ne joue pas à l'apprenti sorcier qui déclenche des virus qui voilà, nous font confiner pendant des mois? Est-ce que c'est pas dans le réchauffement climatique? Pour moi, c'est un fourre-tout. Est-ce que aujourd'hui, moi j'ai dit la nature reprend ses droits, la nature y était à la base et l'homme l'a affecté. Et est-ce que ce qu'on appelle les dérèglements climatiques, les inondations, les tempêtes et tout ça, bon, je pense que l'industrie est pour quelque chose. Alors nous, à notre niveau, on augmente, mais par contre, les industriels gagnent de l'argent. Voilà, eux, ils ont fait quoi pour eux? Donc c'est aussi une question politique. Blablabla. Et est-ce qu'aussi les gens n'utilisent pas le marketing, l'ignorance de certaines personnes, comme disait la dame? En fait, si on ne connaît pas, le parabène est remplacé par un ancien, produit toxique qui avait été interdit. On l'a remis. Par exemple, le sucre, on a mis de l'aspartame, maintenant on dit que ça met la maladie d'Alzheimer. Je vais m'arrêter parce que sinon il y a plein de choses qui viennent à l'esprit. Voilà, et puis je vais me faire engueuler. Donc il y a déjà du bois dans la salle. Un peu de tolérance, merci. Et donc, dernière chose, et après je m'arrête. Est-ce que cette quête d'infini de l'homme va pas courir à sa perte?
Ah ben bien sûr, c'est le danger. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant ce mythe de Prométhée. C'est que encore une fois, qui va faire l'humanité de l'homme, c'est-à-dire se dépasser, se transformer, transformer la nature, etc., pour la rendre viable, hein, parce que la nature, elle n'est pas toujours joyeuse non plus. Mais donc ce geste de transformation, c'est aussi un geste de transgression des limites. Et donc oui, la tentation est là, bien sûr. C'est bien le problème. Et ça, en revanche, j'ai pas la solution. Enfin, voilà, j'ai pas la solution pour savoir comment arrêter cette tentation de l'illimité. Ça s'arrêtera tout seul à un moment donné, mais bien malgré nous, et je ne sais pas si on aura les capacités de réagir, mais bien sûr que l'infini ouvre le champ de la tentation. Et c'est un problème.
Merci infiniment pour le manque que vous avez comblé ce soir, c'est ce que disait le premier intervenant. Juste pour achever, vous avez évoqué le problème de l'inachèvement, justement, de la quête de l'homme, mais vous n'avez pas convoqué aucun instant un autre mythe qui est celui de Sisyphe, et pourtant, comme le disait Albert Camus, on peut imaginer Sisyphe heureux.
Oui. C'est une belle conclusion. Alors là, ça ouvre la question du bonheur. En réalité, moi, je ne poserai pas la question du bonheur. Parce que je pense que si on pose la question du bonheur, on a déjà en partie répondu. En fait, je pense que la question du bonheur, peut-être un peu
c'est pas iconoclaste ou je sais pas. Je pense que c'est une fausse question, la question du bonheur. Le bonheur, c'est pas une valeur, comme la santé. On cherche tous le bonheur, mais parfois il y a des choses plus intéressantes en fait qu'être heureux, qui sont plus risquées, où on met effectivement en jeu des formes de bonheur, de tranquillité, mais qui sont plus intéressantes. Et je pense que, évidemment, pas le bonheur selon Camus, mais la façon dont aujourd'hui le bonheur est devenu ce qu'il faut absolument atteindre, alors qu'on sait bien que ça ne se maîtrise pas, le bonheur. Enfin, on peut faire en sorte, il y a des conditions matérielles évidemment nécessaires pour le rendre possible, mais ce n'est pas des causes efficientes du bonheur. Ce n'est pas parce que j'ai une belle maison que je vais être heureux. En même temps, j'ai plus de possibilités d'être heureux que de vivre dans un taudis à chercher à manger tous les jours. Enfin, voilà. Donc il y a des conditions matérielles du bonheur, et c'est là-dessus que la politique doit prospérer, enfin, c'est là-dessus qu'elle doit s'interroger. Mais le bonheur, bon, il n'y a pas de... C'est pas quelque chose qu'on peut décider. Et donc au lieu de chercher à tout prix son bonheur, hein, je trouve que c'est plus intéressant... de chercher du sens. Et parfois, c'est des voies qui sont plus escarpées et plus douloureuses. Et donc, je trouve que la façon... Mais ça ne répond pas à votre question, parce que ce n'est pas du tout la façon, évidemment, dont Camus va parler du bonheur. Mais il n'empêche que cette question du bonheur, elle est importante. C'est qu'aujourd'hui, vraiment, elle est devenue le Graal. Et moi, je ne pense pas qu'il faille penser que le bonheur soit le Graal. Ça l'est, si on a de la chance. Mais on n'est pas maître de cette question. On peut essayer de s'en approcher, mais on n'est pas maître de cette question. Donc tout faire reposer sur l'accession au bonheur, c'est là aussi rendre plus simple le glissement, favoriser le glissement entre le bonheur et le bien-être. Parce que ça, en revanche, c'est possible de l'attraper. Ça se consomme. Ça peut s'acheter. Et c'est exactement ce que fait la société capitaliste et consumériste. C'est qu'elle a fait glisser la notion de bonheur vers la notion de bien-être. Et ce faisant, elle a quand même réussi à agglutiner les deux grands mots de la métaphysique que sont le bien et l'être. Et pour en faire... une heure au spa, quoi. Et, alors moi j'adore, hein, j'ai écrit le salon de massage, j'adore ça, mais voilà. Donc vous voyez comment la question du bonheur a été récupérée aussi. En revanche, la question de la liberté, la liberté, ça sera plus difficile à vendre, vous voyez. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'écouter les signifiants maîtres dans une société pour voir quels sont, par quoi on est un peu orienté malgré nous.
Alors nous approchons du temps de convivialité qui clôt tous les événements de Philomania. Avant, je voudrais vous dire deux choses. La première, c'est que si vous n'avez jamais tenté l'expérience du café Philo et que vous ayez envie de la faire, vous avez deux opportunités de le faire en plein air et gratuitement. La première, le 14 juin à 15h, à Festivassos, sur la dalle à la source, avec pour une fois un sujet prédéfini, s'évader, est-ce se perdre ou se retrouver. Et la deuxième, le mercredi, attention, d'habitude les cafés philo c'est le mardi, là exceptionnellement c'est le mercredi, dans le cadre magnifique de la paillote sur les quais de Loire, donc dans un cadre somptueux, et là, le public aura le choix du sujet. Et puis, dernière chose avant que vous passiez dans la... Le 18 juin, le mercredi 18 juin, à 19h. À 15h, le 14 juin, à la source, avec un sujet prédéfini, sur la dalle, et le 18 juin, à la paillote, à 19h. Et avant de vous proposer de passer dans l'autre salle pour le pot, les hommes forts, s'il y en a parmi vous, s'ils peuvent nous donner un petit coup de main pour aider à ranger les chaises, on leur en sera très reconnaissant. Merci.